Dialogue entre Congolais à 16 ans avec Alain Rung à la présentation.
Bonsoir, journée internationale de la femme dont le thème national est le progrès pour tous, parité homme-femme dans un Congo cinquantenaire. Quel bilan dressé de la condition de la femme congolaise 50 ans après la cession de la RDC à l'indépendance? Et que faut-il pour que la parité homme-femme soit effective? Trois invités sont conviés à cet échange, ce sont toutes des dames. Madame Berthe Akachi, administrateur, directeur général de l'Office national du tourisme. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Georgette Guébier, professeure en pharmacie, toxicologie et présidente du caucus des femmes congolaises. Bonsoir, madame.
Bonsoir, Alain.
Madame Philomène Omatuku, ingénieur physicien de formation, présidente honoraire de l'Assemblée constituante et législative du Parlement de transition, vice-présidente honoraire de l'Assemblée nationale et ministre honoraire. Elle vient de faire son entrée dans ce studio. Nous allons la saluer dans un tout petit moment. Nous sommes le mardi 8 mars 2010. Bonne fête à toutes les femmes et bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Vous le savez, ce lundi 8 mars, le monde célèbre la Journée internationale de la femme. En RDC, le thème national choisi est le progrès pour tous par la parité homme-femme dans un Congo cinquantenaire. Cette année, le gouvernement est déterminé, d'après la ministre de Genre, Famille et Enfants, à apporter des changements significatifs dans le vécu quotidien de la femme congolaise. Mais quel bilan dresser de la condition de la femme congolaise 50 ans après l'accession de la RDC à l'indépendance? La ministre Marie-Ange Loukiana répond au micro de Daniel Tambizoni.
Nous disons que la situation de la femme congolaise, il y a des avancées. Il y a beaucoup d'avancées, regardons les femmes en ce sens. Au niveau de l'éducation, beaucoup plus de femmes sont attirées à l'éducation, 23% de plus. Au niveau de l'emploi, 18% de plus. Au niveau de la culture, au niveau des médias, vous avez des collègues femmes. Donc la femme a pris les choses à grand corps sur le plan tant politique, économique que social pour occuper l'espace national quelque chose. Lors des élections de 2006, les élections démocratiques, 63% des votants réels sur 100 étaient des femmes. Ce sont les mamans qui massivement, majoritairement ont conféré le pouvoir à tous les gouvernants qui siègent dans les institutions légitimes à tous les niveaux. Depuis 50 ans d'indépendance, on a eu des bandes armées, des chefs de guerre. On n'a jamais entendu une seule bande armée dont le premier chef est une femme. C'est-à-dire que la femme s'est affirmée comme artisan de la paix et artisan pour bâtir le Congo démocratique par les voies républicaines.
La ministre Marie-Ange Loukiana a aussi annoncé la création de deux structures dans le cadre du cinquantenaire de la République démocratique du Congo, à savoir l'AVIFEM, Agence de lutte contre la violence faite à la femme, et le FONAFEM, Fonds national pour la protection de l'enfant et de la femme. Madame Philomène Omatuku, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, nous saluons également votre entrée dans ce studio. Vous êtes ingénieur physicien de formation, présidente honoraire de l'Assemblée constituante et législative du Parlement de transition, vice-présidente honoraire de l'Assemblée nationale et ministre honoraire. Pour ce premier tour de table, juste un mot sur la célébration de cette journée internationale de la femme.
La journée internationale de la femme est toujours chaque année un moment très important qui permet aux femmes, surtout les mouvements féminins, les agences et le gouvernement, de faire le point de la situation, de mesurer un peu chaque année quel est le pas que l'on fait en plus ou en arrière vis-à-vis des intérêts de la femme. Ce qui fait que c'est une journée très importante et qui se présente très bien au Congo cette année.
Madame Berthe Akachi, vous êtes administrateur directeur général de l'Office national du tourisme. Un mot également sur la célébration de cette journée.
Merci beaucoup. Je crois que c'est tout à fait naturel que le monde recherche l'équilibre avec la femme. Parce que Nous, nous croyons et nous sommes convaincus que la femme est un être très très important pour l'équilibre de l'évolution du monde dans tous les domaines économiques, sociaux, politiques et pour la bonne marche. Tous les pays qui ont expérimenté l'égalité, la parité, sont plus avancés que ceux qui minimisent la femme et donc coup de chapeau à notre pays qui a accédé à cette démarche.
Madame Georgette Bien, vous êtes professeure en pharmacie, toxicologie, présidente du caucus des femmes congolaises. La célébration de cette journée, hein, finalement, beaucoup de gens vous reprochent à vous, les femmes de la haute classe, hein, de minimiser en fait les femmes de basse classe, les femmes des milieux ruraux, qui ne sont pas touchées par ce message finalement.
Je voudrais d'abord rappeler que cette journée de 8 mars 2010, elle est spéciale parce que la journée de 8 mars a 100 ans. C'est depuis 1910 que les femmes ouvrières en Allemagne se sont mises ensemble pour revendiquer leurs droits parce qu'elles ont constaté qu'elles souffraient de beaucoup d'inégalités, de beaucoup d'injustices par rapport à leurs collègues hommes. Alors, elles ont fait des marches avec un seul slogan, à travail égal, salaire égal. Donc le combat des femmes a commencé avec ce mouvement des femmes en Allemagne en 1910 et maintenant il fait exactement 100 ans depuis que ce mouvement a commencé et les femmes continuent à revendiquer leurs droits, droit au salaire égal avec leurs collègues hommes, droit à la scolarité, droit à l'emploi, droit à la santé, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inégalités qu'on a observées à l'égard des femmes. Par rapport à cette journée, minimiser les femmes rurales, je dirais que ce n'est pas juste, parce que moi, tout à l'heure, j'étais sous le soleil avec les femmes de cause commune, en attendant que notre tour arrive pour défiler. On était ensemble.
Mais dans le Congo profond, hein, on ne sent pas toutes ces manifestations, elles ne se limitent qu'à Kinshasa.
Vous savez, quand nous militons pour le droit de la femme, pour l'amélioration des conditions de vie de la femme, quand il y a des retombées, en principe, ce sont toutes les femmes congolaises qui en bénéficient. Donc, si, même si ces femmes de la base n'ont pas défilé aujourd'hui, mais notre combat, celui d'améliorer les conditions de vie de la femme, d'améliorer les droits humains des femmes, ce combat est valable pour toutes les femmes congolaises.
Alors, la Journée internationale de la femme a 100 ans, et la République démocratique du Congo aura ses 50 ans cette année. Madame Philomène Matuku, ainsi qu'à vous toutes, je vous propose la démarche suivante. Nous allons, par rapport à ces cinquantenaires, diviser ce moment en deux grands temps. Commence vraiment, par exemple, la période allant de 60 à 85, ça fait 25 ans, et puis de 85 à 2010. De 60 à 85, quelle était la condition de la femme sur le plan politique et socio-économique, Madame Philomène Matou?
Bon, on peut dire qu'à cette époque-là, c'est un peu l'époque où notre génération arrive un peu à l'université. Aujourd'hui, les femmes qui sont en poste de commandement, c'est à cette époque qu'elles arrivent à l'université, qu'elles terminent. On sent une force, un grand stimulus pour que les femmes étudient. Il y a encore des internats très valables pour filles, et il y a encore un bon encadrement, l'enseignement encore un minimum de qualité. Et on verra quand même beaucoup de femmes étudier. Et vous savez qu'en 1966, on aura la première femme ministre qui est Sophie Kanza-Liao, qui sera la première femme ministre, ce qui va encore créer vraiment un grand stimulus. Même au niveau des villages, on voit que les filles étudient. Au niveau des villages, les filles étudient, les écoles fonctionnent encore, tout ça, mais au fur et à mesure qu'on arrive vers les 20 ans et plus, il y a dégradation de l'enseignement et tout de suite cela se ressent. Sur le plan économique, on va voir l'arrivée progressive des femmes sur le marché de l'emploi. Avant, on ne voyait pas de femmes qui travaillaient, sauf les femmes qui étaient peut-être vendeuses, tout ça, etc. Et puis dans le milieu rural, les femmes avaient continué à travailler, d'aller tous les jours au champ, mais dans le milieu urbain, il y avait très peu de femmes fonctionnaires, très peu de femmes dans les entreprises, etc. Donc, pendant cette période, jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire après la réalisation, la situation va se dégrader pour tout le monde et pour la femme aussi. Mais je tiens vraiment à souligner que l'éducation était toujours en vont progresser. Dès que l'éducation vraiment se détériore, la première victime c'est la femme, parce que la petite fille sera sacrifiée au profit du garçon qui doit étudier, puisque lui doit être un chef de famille, donc on sacrifie les petites filles automatiquement.
Madame Berta Kassi, c'est vrai que beaucoup de plus en plus de femmes étaient à l'université, vous qui dirigez aujourd'hui, hein, vous êtes pratiquement de cette génération-là, mais on se souvient que sur le plan politique, on est dans un contexte de parti unique et la femme était réduite hein, au simple rôle d'animatrice populaire à l'époque.
Merci beaucoup. Si je regarde le secteur que je maîtrise le mieux, c'est celui des entreprises. Là, c'est vraiment clair. À l'époque, la première que vous avez de 1960 à 89, c'était très, très rare de voir une femme diriger une entreprise. C'était à compter au bout des doigts. Mais aujourd'hui, la femme ayant pris conscience, même si la condition c'est qu'il faut appartenir à un parti politique, eh bien, la femme a pris la chose à cœur. Nous sommes dans des partis politiques, nous faisons des plaidoyers et aujourd'hui, jamais notre pays n'a atteint le nombre de femmes qui dirigent des entreprises comme aujourd'hui, qui est membre des comités de gestion, des conseils d'administration des entreprises. Et donc, il y a une évolution très significative dans notre pays, quoique on est encore loin d'atteindre la parité que nous voulons tous, mais l'avancée est vraiment significative.
Mais à l'époque aussi, hein, avec semblant, disons, presque une stabilité apparente hein, sur le plan socio-économique, qui a quand même permis, je ne sais pas moi, de garder un peu la femme au foyer, parce que c'est après, avec la détérioration, qu'on a vu les femmes se lancer sur le marché de l'emploi.
Merci. C'est vrai que avec le pillage, la femme a démontré de quoi elle était capable. La femme a pris vraiment ses responsabilités et c'est à partir de ce moment que le monde a compris que la femme est une force tranquille. Elle a pris en charge toute la famille parce que les hommes ont perdu leurs emplois, eux qui croyaient que la femme était bonne pour garder la maison. Et donc toute la charge pratiquement de nos familles était entre les mains des femmes, et chose qui continue jusqu'à aujourd'hui, bien que l'homme a repris le sommet du travail, mais la femme a quitté pratiquement la maison et elle est engagée dans plusieurs secteurs de travail pour compléter, pour améliorer les conditions de vie des familles.
Madame Georgette Liébier, vous êtes professeure hein, dans l'enseignement. Combien de femmes avait-on à l'époque dans l'enseignement?
Mais je veux dire tout simplement qu'à l'époque, comme l'a dit Madame Omatoukou, j'aimerais d'abord dire qu'à l'université, les filles n'osaient pas aller vers les filières scientifiques. Les filles étaient souvent poussées à aller faire les sciences commerciales, les sciences sociales, mais pour faire les filières scientifiques, pour voir une femme ingénieure, c'était très rare à l'époque. En tout cas, ça n'existait pas. Et moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à faire mes études de pharmacie en 1968, mais on a beaucoup souffert à l'université parce que les garçons n'acceptaient pas de voir les filles dans les filières scientifiques. On a dû tenir bon pour terminer nos études. C'était pas facile. Et c'est vrai, les femmes professeurs n'existaient pas, les femmes médecins n'existaient pas, les femmes avocates n'existaient pas à cette époque-là. La femme, elle était réservée pour la maison. Elle conduisait d'ailleurs très bien sa maison. Le mari avait un très bon travail. Mais le monde évolue. La femme ne pouvait pas rester dans ses carcans domestiques. Il fallait qu'elle évolue avec le monde. Et comme l'a dit encore Madame Berta Kassi, avec les pillages, il y a eu une dégradation générale de la situation de notre pays. Et j'irai même plus loin avec la zaïrianisation. Quand on a zaïrianisé les entreprises publiques, ben, il y a eu faillite des entreprises parce que les entreprises ont été mal gérées et la plupart des hommes se sont retrouvés au chômage et la femme s'est sentie obligée, cette femme qui porte la vie, qui donne la vie et très souvent aussi risque de perdre sa vie au moment où elle donne la vie, elle est jalouse de garder, de conserver cette vie, elle a dû elle a été forcée de quitter son domaine naturel qui était la maison pour aller essayer de chercher des moyens pour subvenir aux besoins de sa famille.
Madame Omatoku, il y a des auditeurs qui nous écrivent. Hein. Curieusement, il y a beaucoup plus d'hommes que des femmes. Il y a Baomi de Bukavu au sud Kivu qui dit « Il n'est pas surprenant qu'après 50 ans d'indépendance, le bilan de la condition de la femme soit toujours négatif et pourtant la condition de l'homme n'est jamais améliorée, n'est-ce pas ? Que l'amélioration de la condition de la femme est subordonnée à celle de l'homme. »
Bon, c'est peut-être de façon apparente. Hein. Je pense que si l'humanité tourne en rond, c'est-à-dire on construit de la main droite et on détruit de la main gauche, c'est parce que l'homme qui gouverne seul depuis la nuit des temps manque de ce complément humain que Dieu lui a donné pour l'accompagner, qui doit compléter sa vision qui est souvent ressentie comme dure par une certaine vision humaine. L'aspect humain que la femme peut apporter et qui peut permettre à l'humain, maintenant pas des droits humains, qui peut permettre à l'humain d'avancer positivement, c'est-à-dire de construire sans systématiquement détruire. Donc si on veut améliorer la condition de l'humain, ça n'a pas été prouvé qu'en améliorant celle de l'homme, c'est là que celle de la femme s'améliore. Ensemble, ils peuvent construire durablement et même protéger l'environnement, nous y arrivons, construire durablement et ne pas tout le temps revenir en arrière. Il y a quelque chose qui manque. De par mes études, j'ai longtemps étudié avec les garçons, j'ai travaillé longtemps avec les hommes, c'est nécessaire. Quand j'entendais mes collègues parler, je sentais qu'il manquait quelque chose dans leur vision. Et quand ils me voyaient réagir aussi, ils me disaient aussi que je manquais aussi de quelque chose. Vous comprenez? Moi, je trouvais qu'ils étaient durs et ils trouvaient que je réagissais en femme. Et à la fin de nos études, on s'est complété. On s'est complété. J'ai appris beaucoup avec eux, eux aussi ont appris beaucoup avec moi. Ils avaient des tirades, c'est-à-dire des expressions sur les femmes qui ne reposaient sur rien. Et avec le temps, ils ont compris. Et je pense que de cette expérience au niveau des études, que j'ai encore expérimenté au niveau du travail, nous avons le devoir divin, le devoir humain de travailler ensemble pour pouvoir sortir quelque chose de valable. Sinon, c'est toujours le compte à rebours et recommencer.
Madame Bertha Kachia Agenonga de Bouya en province orientale qui dit « Je pense que 50 ans après, certaines femmes se sont libérées des cultures tribales. Cependant, que pensent les autorités de l'habillement obscène de certaines femmes sur la place publique et devant les parents? N'est-ce pas là une forme de violence faite cette fois-ci à l'homme ?»
Merci beaucoup. D'une réflexion avec des amis, on a constaté que c'est vrai aujourd'hui, c'est très remarquable, on pointe du doigt la jeune fille, mais très souvent, celui qui habille cette jeune fille, c'est l'homme. Les scènes de musique que nous voyons à la télévision où la fille est pratiquement nue, c'est l'homme et cette jeune fille fragile qui va chercher du travail et le travail qu'on lui propose, c'est celui qui l'expose, le pousse à c'est pratiquement à rester à moitié nu. C'est cela. Et nous disons, on est parti de très loin. On a commencé, le monde a commencé par réfléchir comment rapprocher l'homme de la femme, au lieu de dire que l'évolution ou le développement de la femme dépend de l'homme. Non. On a commencé par les concepts tels que l'émancipation de la femme, pour essayer. Et aujourd'hui, nous sommes dans le concept du genre. Genre qui signifie équilibre entre l'homme et la femme. Tout ce qu'on reproche à la femme, je vous dis, si l'on commence à les corriger au niveau du mental de l'homme, ça ira mieux aussi avec la femme, parce que on ne peut pas développer l'un sans associer l'autre. Et c'est ensemble les deux que l'évolution est équilibrée et plus facile. Et donc, nous ne pouvons pas voir la jeune fille mal habillée parce que il y a aussi des hommes qui s'habillent très très mal devant les femmes et les femmes ne font pas beaucoup de bruit autour de cela.
Madame, vous venez d'évoquer le concept de l'émancipation de la femme. Hein. On se rappelle que pendant la Deuxième République, c'était vraiment un slogan, hein, lancé à tout bout de champ. Était-ce un terme vide ou c'était juste pour tromper un peu les femmes, permettez-moi les femmes?
Pas du tout. C'était en fait les réflexions pour minimiser les écarts entre les hommes et les femmes. On a essayé de travailler sur le concept d'émancipation de la femme, mais c'était un peu sans associer son ami, sans associer l'homme. On travaillait, on pompait la femme des concepts, des techniques, et de ceci, de cela. Et l'homme est resté trop à l'écart et ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi parce que la femme a été jugée de tous les noms. Et aujourd'hui, on a dit qu'on ne peut pas développer la femme sans l'homme. Et donc, le genre, aujourd'hui, c'est le concept qui corrige ce qu'on a appelé émancipation de la femme. Parce que le genre, pour développer la femme, il faut que l'homme aussi soit là. Et c'est côte à côte qu'ils doivent évoluer. C'est côte à côte qu'un ministre homme et un ministre femme peuvent collaborer pour que le gouvernement donne des fruits dignes de ces noms et qui seraient à la disposition de toute la population.
Madame Georgette Biedier, prenons la deuxième partie des 25 ans, de 85 à 2010. Sur le plan politique et socio-économique, on a déjà évoqué les pillages de 91 et 93. Il y a l'instauration de la démocratie, de la démocratisation. Ça commence aussi les guerres à l'Est avec tout le cortège de violences faites à la femme. On a l'impression que les 25 ans après, la situation de la femme s'est nettement détériorée.
Je voudrais d'abord dire que le combat du genre, ce n'est pas un combat des femmes contre les hommes. C'est un combat des hommes et des femmes libérés des mentalités, des coutumes et des traditions rétrogrades contre les injustices, contre les inégalités, contre les discriminations et contre les disparités qui sont pratiquées envers une catégorie de la population. Et on ne peut pas parler du progrès, parce que notre thème cette année, bon, je reviens un peu au thème de cette année, égalité des droits, égalité des chances, deux points, progrès pour tous. On ne peut pas parler du progrès quand 52% de la population reste en marge. Quand les besoins de 52% de la population ne sont pas pris en compte. Donc, vraiment, je voudrais insister là-dessus. La parité, c'est l'idéal. C'est l'égalité à laquelle nous voulons tous arriver. Égalité de droits. L'homme et femme, nous sommes complémentaires. Même deux femmes ne sont pas égales. Elles sont égales devant la loi, mais biologiquement, elles ne sont pas égales. Donc, quand on parle de l'égalité, c'est par rapport à nos droits, par rapport à nos devoirs, par rapport aux opportunités qui s'offrent à nous. Ce n'est pas un combat entre la femme et l'homme, c'est un combat contre les inégalités. Et une société juste, une société qui avance, c'est une société dans laquelle où on a réduit les inégalités. Je voulais faire cette mise au point.
Alors, par rapport à ma question de 85 à 2010, on a l'impression que la condition de la femme s'est beaucoup détériorée.
Ce n'est pas seulement la condition de la femme qui s'est détériorée, c'est la condition générale de notre pays. Le pays en général, moi, je pense que le pays a régressé par rapport à ce qu'on avait vécu dans les années 80, même les années 90. Mais nous sommes dans un système nouveau d'apprentissage de la démocratie. Donc, avec ces nouveaux système d'apprentissage, nous sommes en train d'avancer petit à petit. Hein. Bon, il y a des choses qui vont s'améliorer. En France, aujourd'hui, ils ont 200 ans de démocratie. Et c'est des combats chaque année pour avoir une petite amélioration. Donc, on ne doit pas se décourager. Moi, je pense qu'on avance à petits pas, mais on avance quand même. Même si la situation n'est pas facile, il n'y a pas de boulot, vous savez, il y a la crise mondiale financière qui s'est ajoutée, il y a la guerre dans notre pays, nous avons des foyers de tension dans notre pays qui n'arrangent pas notre pays, parce que là où il y a l'instabilité, les investisseurs ne viennent pas. Or, si les investisseurs ne viennent pas, il n'y a pas de travail. Et dans notre pays, le seul métier, qui marche encore un peu bien, c'est la politique. Et les hommes de ces pays ont considéré la politique comme leur chasse gardée. Donc, il n'y a pas d'espace pour la femme. C'est comme ça que nous sommes obligés de nous battre, d'essayer de forcer un peu la porte pour trouver un peu d'espace pour ces femmes qui ont aussi quelque chose à apporter pour l'avancement de notre pays.
Alors, Madame Omatoko, vous êtes parmi ces femmes qui ont réussi à se forger une place dans l'arène politique. Vous avez occupé des très hautes fonctions, président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas peu de choses. Mais vous avez suivi Madame Lukyana dans l'extrait qu'on a passé tout à l'heure. Il dit par exemple qu'avec toutes les guerres à l'Est, on n'a pas vu des femmes chefs de groupe armé. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous?
Bon, il y a à boire et à manger dans cette expression, hein, parce que ce qui fait souvent défaut à notre pays, le Congo, c'est qu'on nous avait, par exemple, donné l'indépendance sur un plateau. C'est ce qu'on nous reproche. Vous n'avez pas lutté pour votre pays comme les pays de l'Afrique australe. Vous ne vous êtes pas formés. Vous n'avez pas... Les femmes ne participent pas à la lutte quand il faut lutter, quand il faut se libérer. Les femmes ne participent pas. Et notre pays va connaître effectivement des guerres de libération. Des guerres de libération que je ne voudrais pas citer ici parce que le temps nous imparti est court. Je ne voudrais pas rentrer dans l'histoire. Et je pense que ce n'est pas évident que quand l'être humain cherche à se libérer du joug de la colonisation des dictatures, que la femme ne puisse pas y participer, ce serait un bonus. Donc il y a à boire et à manger. Mais effectivement, les groupes armés du désordre, tels qu'on le voit aujourd'hui, parce que je ne suis pas au gouvernement, je prends les armes, là ça ne va pas. Et effectivement, on n'a pas encore vu une femme faire des luttes armées uniquement pour des intérêts, disons, pratiquement individuels. Ce sont pas ce qu'on appelle des causes justes. Dans une cause juste que les femmes participent, c'est bon et c'est normal. Mais dans des causes opportunistes, là vraiment je pense que ça ne peut pas aller. Et je voudrais donc dans cette deuxième partie du cinquantenaire du Congo faire remarquer justement que on a fait étudier les femmes, on nous a fait étudier. Nous sommes arrivés maintenant sur le marché de l'emploi. Et nous allons trouver que le marché n'est pas préparé nécessairement à intégrer la femme. Malheureusement aussi, quand nous arrivons, il y a aussi eu des pillages, tout ça, nous assistons à la chute, hein, donc la gestion, le pillage, à la chute de l'économie dans notre pays. Et nous allons voir que nous travaillons pratiquement pour rien. À l'époque, le Zaïre monnaie dégringole chaque jour. Nous travaillons pratiquement pour rien. Et... disons, par la force de choses, même nous qui étions dans des entreprises, moi je viens de la Jutamine, même nous qui étions dans les entreprises, nous avons senti le besoin de dire non, allez voir là où la cité est gérée. Hein, la politique, c'est la gestion de la cité. Allons voir là où la cité est gérée, parce que je ne peux pas continuer à garder des salaires tels que l'ingénieur zambien peut payer un ingénieur de la Jutamine comme domestique. C'est-à-dire des salaires pratiquement dérisoires. Alors que la Jutamine était la première entreprise du pays qui payait le mieux au Congo, c'est-à-dire aux Zaïre à l'époque. Malheureusement, sous le milieu politique, comme la femme avait été choisifiée, surtout dans la Deuxième République, et l'arrivée des femmes sur ce marché est très, très, très combattue. On voudrait que ce soit comme des privilèges qu'on donne aux femmes, c'est-à-dire qu'elles puissent passer dans des labyrinthes de tout calibre, nous n'entrons pas dans les détails. Donc automatiquement, il y aura une grande résistance et normalement, l'émancipation de la femme telle qu'elle était lancée, c'est cet élan que Sophie Kanza a lancé pour montrer que la femme aussi est capable de gérer, de participer à la gestion. Au processus décisionnel dans le pays, on peut le faire. Nous allons arriver avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, c'est une étape importante où la femme, maintenant, doit se prendre en charge. C'est-à-dire, la femme ne peut plus attendre que le genre, que son émancipation se fasse pour elle. Elle doit la faire elle-même avec le concours de l'homme. Donc, c'est en profondeur, maintenant, il faut y arriver. Il faut que la femme sache quel est le contenu du genre, quel est le contenu d'émancipation, quel est le contenu de l'évolution, c'est-à-dire avancée des femmes, c'est-à-dire ça passe d'abord par la solidarité, ce qui n'a pas été évident, ce qui n'est pas facile et ce qui n'est pas évident.
Voilà, nous allons aborder cet aspect tout à l'heure dans la deuxième partie. Madame Berta Kassi, les femmes représentent le plus grand pourcentage d'électeurs en RDC, mais elles n'ont pas pu élire une femme, malheureusement. J'ai là devant moi quelques chiffres par rapport aux élections. Les quatre candidates à l'élection présidentielle, la première était 10e avec 61 000 voix, la deuxième 12e avec près de 43 000 voix, la troisième 18e, la dernière femme était 26e.
Merci beaucoup. De prime abord, je pourrais dire que l'ennemi de la femme, c'est la femme, mais je ne peux pas soutenir cela. C'est qu'on sait croire. Mais vous savez, tout est assis sur la mentalité, sur l'éducation, sur la culture que nous avons. Depuis notre jeune âge, on nous apprend qu'un bon député, c'est un homme. Et donc, femme ou homme, on a tendance à croire que pour voter un bon président de la République, c'est un homme. On peut pas s'imaginer voir une femme à cet endroit parce que l'éducation, la mentalité nous montre cela. Et même au niveau des députés, au niveau des pratiquement pour la population, pour les communs, les mortels, ce sont des postes masculins. Et donc les hommes des chances par rapport à la femme. Même la femme elle-même n'a pas confiance à sa collègue femme, à sa sœur femme, parce qu'elle s'est dit non, elle est fragile pour ce poste-là, le travail est trop difficile à ce niveau-là, elle, une femme ne saura pas. Donc ce sont des mentalités que nous avons de par notre éducation, de par notre culture. Mais ce n'est pas que la femme n'a pas voté l'autre femme par dédain ou par non.
Que faut-il pour que la parité homme-femme soit effective en RDC? C'est la deuxième partie de cette émission que nous abordons sans transition. Marie-Noëlle Nyanguil est présidente de l'Association des femmes juristes congolais, pense que la parité en RDC passe par l'instauration d'une réelle volonté de la part des décideurs et le vote d'une loi de mise en application de la parité. Marie-Noëlle Nyanguil est présidente de l'Association des femmes juristes congolais, s'exprime à ce sujet au téléphone de Samuel Kakak.
Pour que la parité soit effective, il faudrait déjà qu'il y ait une réelle volonté de ce que cette parité puisse exister. On entend par respecter les textes que la Constitution en parle. Jusqu'à aujourd'hui, cela tarde. Et cela ne se voit pas dans les différents domaines de la vie de tous les jours. Cela a été dit dans la Constitution. Il faudrait maintenant une loi de mise en œuvre de la parité au niveau des décideurs, au niveau du Parlement. Il faudrait que l'on prenne conscience qu'il est plus que temps aujourd'hui que la parité homme-femme en RDC soit effective. Donc, je dis que cela reste au niveau des textes qui devraient être pris et qui devraient donc être ensuite mis en œuvre et que l'on puisse effectivement l'appliquer.
Madame Georgette, bien, il y a beaucoup de lois en RDC qui ont été promulguées, votées, et même la Constitution dans son article 14 consacre la parité. Il y a la loi sur le VIH-Sida, les violences sexuelles, mais pourquoi toutes ces lois ne sont pas appliquées?
Parce que nous ne sommes pas encore un état de droit.
C'est-à-dire?
Ce qui qualifie un état de droit, c'est un état qui est régi par le loi, qui décide de loi, qui prend de loi et qui les met en application. C'est-à-dire, il y a des règles. Mais dans notre pays, on prend des lois et on ne les met pas en application. Nous ne sommes pas encore un état de droit. Je pense qu'on est en train de se battre pour essayer d'instaurer un état de droit dans notre pays, mais on ne l'est pas encore. Et je voudrais ajouter une chose à ce que Mme Marie-Noëlle Nyanguile a dit. C'est vrai, il faut une loi de mise en œuvre de la parité, mais comme elle l'a dit, encore, faut-il mettre cette loi en application. Mais il faut aussi que les femmes s'élèvent et s'engagent dans les partis politiques, parce qu'on ne va pas aligner sur une liste de femmes qui ne sont pas engagées dans un parti politique. C'est comme Mme Berthe a dit tout à l'heure, dans notre tête, on nous a dit la politique c'est pour les hommes, il faut voter les hommes, on n'a pas confiance en une femme. Toutes ces choses-là qu'on nous a inculquées depuis notre jeune âge, mais nous sommes en train de nous battre pour essayer de changer la mentalité des femmes, pour essayer de créer une solidarité, une synergie de solidarité entre les femmes de la base et les femmes leaders. Parce que le problème que nous avons, c'est aussi un problème d'incompréhension, de malentendu des femmes de la base qui ne se retrouvent pas ou qui ne se reconnaissent pas dans notre combat, qui pensent que tout ce que nous faisons, c'est pour chercher un positionnement, c'est pour chercher un poste. Mais aussi longtemps qu'elles vont continuer à réfléchir comme ça, c'est difficile de voter une femme. Alors, nous sommes en train de faire un travail de fond à la base pour expliquer aux femmes que nous sommes complémentaires, elles ont besoin de nous comme nous avons besoin d'elles. Et s'il n'y a pas de femmes à la table de prise de décision, c'est difficile pour que les besoins des femmes soient correctement expliqués. C'est également difficile pour que les intérêts des femmes soient défendus. Tout le monde sait que les hommes sont égoïstes, ils sont égocentriques, tout c'est pour eux. Mais pour que les besoins de la femme soient pris en compte, qu'on ait dans le programme du gouvernement la pensée de construire une maternité par là, de construire des crèches, toutes ces femmes qui vont travailler, où est-ce qu'elles laissent leurs enfants?
Madame Philomène Omatoku, finalement, peut-on parler d'un manque de volonté politique pour que cette parité soit effective?
Bon, je souhaiterais d'abord souligner qu'une loi est souvent l'expression de la société, c'est-à-dire une loi exprime une volonté sociale et politique du pays. Il ne suffit pas, parce que la Constitution stipule, il faut qu'une loi d'application puisse appliquer. Et la loi, c'est la meilleure façon de changer la société. Pour qu'elle change, elle doit arriver au Parlement. Et qui sont les gens qui sont au Parlement? Quelle est leur conception? Quelle est leur conception du genre? C'est là que je dis que c'est maintenant la part de la femme. C'est la femme qui, on dit, est pilier de la famille, qui éduque. Qui éduque. Donc, ce sont les femmes qui vont éduquer les petits garçons et les petites filles pour que quand ils vont devenir des députés, ils puissent voter, ils puissent comprendre les choses telles qu'elles sont.
Mais en attendant, la parité, là, c'est pour les petits, donc, les petits garçons et les petites filles de demain.
Non, c'est-à-dire, ça nous fait comprendre que c'est très dur, ça va être dur. Et je vous dis que si nous avons pu mettre la parité dans la Constitution, c'est parce que nous avons travaillé avec un consensus. Ce n'était pas des députés individuellement qui ont levé le doigt. Donc, il y avait une pression politique qui s'est exercée. Alors, comment est-ce que nous allons faire maintenant pour faire passer la parité, pour ne pas la laisser à des petits-enfants? Il faut que les partis politiques s'engagent à travers leurs députés à l'Assemblée pour faire passer la loi sur la parité. Si on laisse le choix à chaque député de dire, bon, voilà, je vais voter ou pas, vous savez que ce en quoi nous croyons sont aussi des questions d'expérience. Il y a des gens qui peut-être dans son entourage, dans sa famille, n'ont jamais vu une femme avec des responsabilités de certains niveaux. Moi, quand je vais arriver à la Gécamine, jeune ingénieur civil, les travailleurs autour de moi appelaient mes collègues chefs, moi ils m'appelaient citoyenne. Et mes collègues m'ont dit, mais réagissez, séduisez. Je lui ai dit, non, ils n'ont pas de référence. Comment voulez-vous que un travailleur comme ça dire à sa femme j'ai une chef? Donc c'est le fait que j'ai travaillé d'abord, j'ai fait tout pour former ces gens, travailler et leur faire comprendre et que d'eux-mêmes ils comprennent qu'une femme peut travailler en moins de 3 mois, c'est-à-dire le temps de d'être confirmée par l'entreprise. Ils m'appelaient chef d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont vu que la femme est capable de faire aussi un travail d'ingénieur. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que nous ne pouvons pas attendre que tout ce monde-là puisse réaliser que la femme est capable. Donc, il faut des décisions politiques. Il faut que les partis politiques s'engagent à soutenir la loi sur le genre. Et nous devons aussi, au niveau des élections, prendre des dispositions. C'est-à-dire la femme devront parler d'une seule voix. Le parti qui ne soutiendra pas le genre ne peut pas compter sur le soutien des femmes. Nous devons maintenant travailler, comme l'a dit le professeur Biébié et Georgette, que nous devons travailler maintenant à la base pour que les femmes comprennent. Le parti qui ne va pas soutenir le genre n'aura pas le soutien des femmes.
Madame Berta Kassi, vous êtes déjà dans les entreprises, hein, administrateur, directeur général de l'Office national du tourisme. que faut-il hein, pour que les femmes qui vous suivent là, puissent atteindre le niveau qui est le vôtre aujourd'hui, par exemple?
Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas de la magie pour qu'une femme arrive à un niveau élevé des responsabilités. Autant un homme est éduqué et a grandi dans une famille, autant une femme peut exercer tout ce que l'homme peut exercer. C'est ça justement les genres. Je crois, pour aller dans le sens de Maman Georgette, moi je dirais, si nous attendons que les partis politiques viennent adhérer à l'idée d'accepter les genres, vraiment, c'est le temps qui passera et jamais on arrivera à voter ou à atteindre le niveau de parité tel que nous l'avons exprimé dans les différents textes qui nous régissent. Nous avons un modèle ici en Afrique centrale, un pays qui a décidé de respecter la parité. Eh bien, nous avons vu les résultats. D'autant plus que il est connu, il est prouvé qu'une femme, à quel niveau de responsabilité qu'elle se retrouve, elle travaille non seulement avec son intelligence, avec sa tête, mais aussi avec son cœur. La femme met tout ce qu'elle peut pour sauver son travail, pour donner le meilleur de soi-même. Et c'est ça qui fait, qui vient un peu équilibrer la balance entre l'homme et la femme. Et donc, moi, je crois que aujourd'hui, nous remarquons que le chef de l'État est pratiquement seul à exiger à tout le monde de respecter tant soit peu cette parité.
Mais au gouvernement, déjà, il n'est pas effectif, hein, la parité.
Mais
à l'Assemblée nationale,
il est obligé chaque fois de remettre les textes qu'on lui propose pour signature pour qu'il y ait un peu de parité. Et donc, qu'on prenne des décisions d'autorité, qu'on fasse accepter à tout le monde de suivre une règle qui est clairement établie dans la Constitution pour que la parité soit effective à quelque niveau qu'il soit dans les entreprises, au gouvernement et ailleurs. Déjà, les femmes qu'on fait partir du gouvernement, mais ce sont les meilleures par rapport à beaucoup d'hommes. Et c'est sur quelle base qu'on le fait.
Voilà, nous avons atteint la dernière partie de cette émission, mais nous, avant d'arriver aux conclusions, nous allons prendre quelques réactions des auditeurs. Claude de Kinshasa. La femme ne pourrait atteindre cet idéal de l'égalité de chance que quand la majorité des femmes commençait à occuper sans complexe d'infériorité les différentes fonctions de l'État que les hommes. Max Ndi et de Massa Dioba Congo, par rapport à ce qu'elle fut avant l'indépendance, la femme congolaise a beaucoup évolué, mais si on la compare à d'autres, la situation globale du pays n'a pas permis leur grande éclosion. Martin de Kananga au Kasai Occidental se demande qui devrait-on engager entre une femme et un homme célibataire. Professeur Georgette Diébié, un mot déjà en guise de conclusion.
Moi, je pense que on a dit le thème de cette année, c'est égalité des droits, égalité des chances, progrès pour tous. Je pense que quand il y a deux candidats qui se présentent, qui ont les mêmes compétences, je pense qu'il y a toujours un critérium. Il y a des conditions qui sont fixées dans ces critériums. Donc, on ne devrait pas écarter une femme, tout simplement parce qu'elle est une femme. C'est une injustice, c'est une inégalité. Donc, on doit tenir compte des compétences de l'un et de l'autre et en tenant compte des critériums, prendre le meilleur candidat. Mais souvent, comme mesure discriminatoire positive, on encourage les candidatures féminines.
Madame Omatoko, en 20 secondes, petite conclusion.
Bon, je dirais ma conclusion qu'effectivement, pour le genre, comme il a été dit ici, il faut que la femme s'engage politiquement aussi. Il n'est pas dit que tout le monde doit aller au Parlement, tout le monde doit faire la politique, mais la femme doit être préparée pour que dans le cadre d'un parti politique, elle ait la formation, qu'elle puisse voter. Et nous devons aussi continuer à rappeler aux femmes l'histoire de la femme au Congo, les Kimpa Vita, les Liao Kanza, tout
merci.
Ça, pour que la femme puisse s'accrocher aux gens. Sans elle, il n'y aura pas de gens.
Merci.
Sans sa participation, les gens
vont continuer. Madame Jassaka, j'ai un mot.
Oui, merci beaucoup. Nous avons dit
tenons compte que la femme, autant l'homme travaille avec sa tête, la femme travaille en plus avec
son cœur. Et c'est avec notre cœur que nous disons bonne fête à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Au revoir. Oh,